When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marques engagées ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Premier hors-série de l'été dans Onward. Dans cet épisode, je vous propose d'assister à deux conférences organisées par Mondial Tissu dans le cadre des Green Days. Une journée d'ateliers et de talk pour une industrie textile durable dédiée à la presse et aux talents couture. Vous allez successivement entendre des discussions autour de l'upcycling et de la seconde main, deux alliés créatifs pour prolonger la durée de vie des vêtements à travers l'entretien, la personnalisation et l'intégration de mœurs circulaires tant du côté des marques que des citoyens. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce talk et cette matinée. On a à peu près 45 minutes d'échange et 15 minutes de questions pour notre panel ce matin. On va essayer de répondre ensemble à la question « Comment améliorer, comment augmenter la durée de vie de nos vêtements ?» Mon nom est Victoire Sato, je suis la cofondatrice de The Good Goods, qui est le média de la mode fondé sur des preuves. Les preuves, c'est ce qu'on peut mesurer en vue de démontrer des choses et notamment des engagements. Et mesurer la durabilité des vêtements, ça peut sembler simple, mais finalement pas tant, parce que ça dépend de la façon dont on définit cette durabilité. Est-ce qu'on parle de durabilité en matière d'esthétique, en matière de qualité du vêtement et de fabrication en elle-même? Est-ce qu'on parle de durabilité émotionnelle? Et donc, pour répondre à cette question ce matin, je suis accompagnée par un panel de femmes. Je vous présente donc dans l'ordre Mona Taschini de chez Tilly, Teresa Marcillac, qui a diverses activités, je vais vous laisser vous présenter ensuite, Marine, directrice communication et marketing de Mondial Tissu, qui nous reçoit ce matin, et Daphné Grembenga, qui est la cofondatrice de la marque Rissap. Alors, pour comprendre la durée de vie, la notion de durée de vie d'un vêtement, c'est important de comprendre le cycle de vie de ce vêtement. Un vêtement est produit, ça on en a tous à peu près conscience, connaissance. Ensuite, il est porté. Et ensuite, on ignore le fait qu'on puisse lui donner une vie, des vies quasiment infinies. Je vais peut-être me tourner en premier vers toi, Mona, pour d'abord te permettre de te présenter l'activité de Tilly, et puis nous expliquer peut-être la différence dans les différentes vies du vêtement, la notion de circularité et la différence entre la réparation, visible, invisible, la customisation, la retouche, etc., et l'upcycling.
Je vais commencer par présenter Tilly, ça vous permettra de comprendre moi qui suis derrière. Tilly, c'est une société qui a été créée en 2017, qui est un service de couturier à domicile. Donc, on travaille vraiment avec une flotte de couturiers qui ont chacun leurs expertises, donc allant du tailleur à la robe de mariée, à la broderie, au jean, au cuir. On a un panel d'artisans très, très large qui savent faire énormément de belles choses. On est aujourd'hui présent dans une trentaine de villes françaises. Et vraiment, Tilly est l'acteur qui a permis de dépoussiérer, si je puis dire, le métier de couturier et de le digitaliser. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère du temps où on permet de remettre l'artisan sur le devant de la scène. Et c'est vraiment ce qui est très important pour nous aujourd'hui. On a deux ateliers qui sont parisiens. On travaille également avec un système de colis qui permet de proposer vraiment au niveau national nos services. Et on travaille sur de la retouche, de la transformation de vêtements et de la réparation. Donc, on a vraiment le panel complet pour permettre d'entretenir et de faire durer ces vêtements. Moi, je suis styliste de métier, je suis formatrice aussi, je suis donc tiliste pour Tilly. C'est comme ça qu'on appelle nos couturiers qui interviennent donc directement sur le terrain. Depuis plus d'un an, je suis aussi ambassadrice, ce qui me permet de creuser plus en profondeur des sujets avec Tilly, notamment sur la formation de nos couturiers, pour leur permettre de toujours gagner en expérience et de toujours pouvoir avancer dans leur métier. Ce qui est vraiment très important pour nous, c'est cette évolution du savoir-faire artisanal. Et donc, je travaille aussi sur la formation vendeur, parce qu'on travaille avec des marques partenaires sur ces questions de durabilité et de comment on peut leur proposer eux-mêmes, en tant que marque partenaire et de vendeur, de faire durer leurs marchandises à l'origine. Donc, pour te répondre sur les questions de réparation et de différence avec l'upcycling, en fait, la réparation va vraiment nous permettre de donner une seconde vie à un vêtement d'origine. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à le transformer ou à le modifier, on répare votre vêtement et il repart pour un tour. C'est ça l'idée. On a aussi donc la retouche qui nous permet donc d'ajuster le vêtement au corps et à tous les aléas de la vie qui font que vous changez de taille, que votre corps change et qui permet de donner cette durabilité sur la modification du vêtement. Et on a le process de customisation aussi. C'est très large finalement. Sur la custo, on va personnaliser le vêtement. C'est vraiment comment on rend une pièce unique alors qu'elle a été vendue à des milliers d'exemplaires et comment on le fait par rapport à vous, à votre personnalité, à ce que vous aimez et à ce qui est important pour vous. Et le dernier relan, c'est l'upcycling. L'upcycling, c'est le process créatif infini. On transforme. Et alors là, nous, chez nos couturiers, chez Tilly, ce qu'on dit, c'est que du coup, on voit le vêtement ou l'article comme une matière première et qu'on peut aller très, très loin dans le process. On peut transformer des vêtements en autres vêtements ou on peut transformer des vêtements en accessoires ou même des vêtements en déco. Et en fait, voilà, il faut vraiment imaginer qu'à partir du tissu, tout est faisable et c'est ce qu'on vend aujourd'hui chez Tilly.
Merci beaucoup Mona, et d'ailleurs je vous invite après à faire un petit tour évidemment dans l'espace. Il y a des exemples de pièces upcyclées incroyables qui sont des pièces d'étilistes qui t'ont mis à disposition pour
exactement.
L'événement et qui sont des customisations à partir de chutes de tissus de maisons de luxe, c'est bien ça?
C'est exactement ça, donc en fait on récupère tous nos matériaux sont des stocks non utilisés des maisons de luxe, donc on travaille toutes nos transfos avec ça. Et les pièces sont alors à la fois les pièces de nos clients, mais aussi les pièces de l'équipe Tilly ou les pièces des couturiers. On a vraiment cette fin de l'upcycling. Donc, toutes les pièces que vous pourrez voir, c'est en effet des pièces qui ont été upcyclées avec des chutes de tissu, avec des boutons de récupération et avec les vêtements des gens qui ne pouvaient plus les porter.
Donc, on a la durabilité qui est permise par le fait d'entretenir son vêtement et de le réparer de façon invisible, mais également de manière plus créative. Marine, côté Mondial Tissu, donc, si j'ai bien compris la mission du groupe depuis le départ, c'est de rendre la couture accessible à tous et à toutes avec une offre produit textile vaste. Et depuis quelques temps maintenant, vous proposez aussi des ateliers donc pour, j'imagine, faciliter cette entrée dans le monde de la couture à des gens qui n'y connaissent rien. Est-ce que tu peux peut-être nous représenter Mondial Tissu et puis nous parler un petit peu de ces ateliers?
Oui, alors très rapidement, effectivement, Mondial Tissu, donc, c'est une enseigne française hein, qui a été créée il y a 40 ans en région lyonnaise, qui maintenant a 120 magasins en France et en Belgique, avec 4 sites internet, enfin un site France et Belgique, un site Allemagne, Autriche et puis un site Espagne. On a plus de 4 millions de clients, donc 2 millions de clients fidèles en fait qui font partie du programme de fidélité. Et à la base, donc c'était de la vente de tissus de stock dormant qui était donc inutilisé, qui était vendu dans des hangars. Et les clientes venaient se servir, couper elles-mêmes le tissu. Et puis au fur et à mesure, voilà, l'activité s'est développée. On a introduit des nouveaux services de couture de décoration sur mesure, entre autres. Là, on a rajouté la mercerie également. Et là, depuis une dizaine d'années, on propose des ateliers donc couture en magasin. Donc, ces ateliers sont destinés vraiment à tout le monde à partir de 7 ans. Qu'on sache déjà coudre ou pas du tout, voilà, qu'on a envie de se mettre à la couture. Donc souvent, il y a plein d'occasions de se mettre à la couture. Et donc là, on a 98 magasins qui proposent des ateliers couture. Donc voilà, c'est des ateliers de 2 heures ou 3 heures. Et donc, chaque client vient avec son propre projet. Ce ne sont pas des cours de couture. On vient accompagner chacun dans la réalisation de ce qu'il a envie de créer. Voilà, donc ça peut être à la fois de la réparation, de la customisation, comme de la création pure de vêtements.
Donc de façon très concrète, comment ça marche? Est-ce que tu prends rendez-vous sur Internet? Est-ce que tu peux voir les créneaux disponibles à côté de chez toi pour t'inscrire?
C'est ça. Alors, soit on vient en magasin, effectivement, pour prendre rendez-vous, soit c'est sur le site Internet. Donc voilà, on a digitalisé également l'offre sur le site.
Et ça, donc avec ou sans matériel, tu viens avec ton idée, ton projet, tu peux venir avec un vêtement à réparer ou par exemple un coupon de tissu dont tu veux faire quelque chose. Mais si tu n'as aucun matériel, notamment de machine, est-ce que c'est mis à disposition sur place?
Oui, tout à fait. Donc sur place, il y a 8 machines à coudre, une surjeteuse, donc différents modèles aussi de machines à coudre. C'est aussi l'intérêt d'essayer des machines plus haut de gamme, plus perfectionnées que ce qu'on pourrait avoir à la maison. On peut venir avec sa propre machine également si on est plus à l'aise avec sa machine. Et puis, donc chacun vient avec son projet. On offre un coupon de remise de 10% à la cliente qui vient en atelier pour qu'elle puisse acheter son matériel nécessaire. Donc sur place, on a déjà à disposition des ciseaux, du fil, voilà, donc le matériel de couture, enfin l'équipement de couture indispensable. Et après, chaque cliente vient avec son, voilà, ce qui est consommable, entre guillemets, pour la réalisation de son projet.
Et ça, donc si tu as un niveau déjà assez expérimenté, tu peux quand même venir tester une surjeteuse, des degrés de technicité un peu plus élevés.
Exactement, donc c'est l'occasion de tester des nouvelles machines. Et souvent, alors, nous, ce qu'on dit sur les ateliers, c'est venez coudre, créer et papoter. Alors, c'est pas que pour coudre, pour l'aspect technique, c'est aussi l'aspect convivial. On voit qu'il y a une dimension sociale, en fait, dans les ateliers, et c'est très sympa. Donc, on a aussi des clientes très expérimentées qui viennent aux ateliers pour le fait d'être, d'avoir de la compagnie, de pouvoir discuter. Voilà, donc c'est très sympa. On voit aussi des personnes qui viennent un peu en duo. On a vu sur des inaugurations de magasins, par exemple, un papa venir avec sa fille. Donc c'est des moments de convivialité aussi, soit avec des amis ou dans la famille. Et puis tu parlais des machines à coudre, donc pas besoin d'avoir nécessairement de machines dans la mesure où aussi on propose nos machines en libre service dans les magasins. Donc quelqu'un qui a envie de coudre mais qui n'a pas de machine à coudre chez lui ou chez elle peut venir louer les machines en magasin. Donc ça, c'est aussi assez pratique et ça peut être aussi des machines plus haut de gamme. Par exemple, tout le monde n'a pas forcément de surjeteuse et donc on peut utiliser la surjeteuse en magasin.
Hyper intéressant. Et ce que je trouve bien dans cette approche, c'est que ça permet aussi à des gens de se rendre en boutique pour tester, toucher les tissus et augmenter leur connaissance globale en matière de textile, ce qui participe généralement à la culture globale qu'on peut avoir d'un vêtement, en dehors du fait, bien sûr, de se rendre compte du temps passé quand on essaye de faire soi-même et donc qu'un vêtement vendu 5 euros ou moins est une aberration. La durabilité, ça passe aussi donc par cette connaissance matière, mais par la manière dont on entretient ces vêtements. Et je fais un mini disclaimer au sujet de la Bible de la réparation, donc qu'on a édité chez The Good Goods et qu'on a fait avec vous, avec Mondial Tissu, donc qui est un ouvrage dédié à différents différentes personnes, quel que soit leur niveau, en matière de couture, avec ou sans matériel, qui est un ouvrage papier, mais dans lequel vous retrouvez, via des QR codes, une vingtaine de tutoriels pour apprendre à réparer une chaussette ou patcher un jean. C'est vraiment extrêmement vaste. Et donc, Mondial Tissu est partenaire de cet ouvrage. Et la deuxième chose, c'est le Coffret, dont on entend peu souvent parler, mais qui est l'organisme qui est responsable des étiquettes qu'il y a sur nos vêtements, et notamment des consignes en matière de lavage, et qui peuvent, ces consignes qui peuvent nous aider à faire perdurer nos vêtements dans le temps. En matière d'éducation textile, je me tourne vers toi, Teresa, parce que tu as démarré en autodidacte la couture. Est-ce que tu peux d'une part te présenter et ensuite nous dire comment est-ce que tu as justement enrichi ta culture en matière de couture et aussi en matière de tissus, et comment est-ce que tu choisis aujourd'hui les tissus pour faire tes différentes créations?
Je m'appelle Teresa, je suis étudiante en stratégie innovation. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Les Oubliés du Placard, où là, je fais beaucoup de création de contenu, de tutoriels, où je montre comment transformer une pièce en une autre pièce, et c'est vraiment partagé, inspiré, etc. Ça m'a mené à écrire un livre qui s'appelle aussi Les Oubliés du Placard. Donc, c'était une commande d'une maison d'édition, les éditions La Plage. Et grâce à tout ça, j'ai aussi créé ma marque qui s'appelle Postérieur, où pour le moment, je fais un seul produit, donc des postérieurs. Et c'est des caleçons qui sont fabriqués avec des chemises. Voilà. Je me suis mise à la couture, par chance, à 8 ans, j'ai eu une machine à coudre. Je ne m'en suis pas trop servie. Mais au moment du confinement, je faisais des études d'hôtellerie, tout s'est arrêté. Je suis retournée chez mes parents et là, elle était là. Et elle m'a bien servie pour m'occuper d'abord. Et en fait, le choix des tissus, c'était d'abord vraiment pratique. C'était simplement de la matière qui était directement disponible dans les placards, gratuite. Et ensuite, j'ai commencé à un peu sélectionner les plus belles pièces. Mais ce qui était sympa, c'était la maison de mes parents. Et du coup, il y avait des pièces très, très vieilles, parfois d'il y a 40 ans. Et c'était vraiment les tissus les plus agréables à travailler, des bonnes épaisseurs de tissu, des très beaux imprimés, comme on fait plus trop, enfin, comme on a du mal à trouver aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment... j'ai vraiment pris conscience des matières que j'avais pas du tout avant. Je regardais juste le design. Et en cousant, on se rend compte que les matières les plus faciles et agréables à coudre, c'est les matières de meilleure qualité. Voilà. Je sais pas si ça répond.
Si, complètement. Et comment est-ce que tu t'es formée? Est-ce que tu peux partager avec nous? Tu vois, alors en période de Covid, j'imagine qu'il y avait beaucoup de tutos YouTube. Mais est-ce que tu as des tips à nous donner?
Alors, on en discutait avec Mona, mais pour moi, j'ai une approche vraiment différente de... l'upcycling, c'est plus du bricolage, donc on va un peu magouiller pour arriver à nos fins sans aucune technique de couture. Je pense pas être vraiment capable de faire un patron technique. Donc je me suis formée vraiment en faisant des tests et ça c'est très important pour d'être conscient qu'il y a énormément de... C'est pas souvent du one shot. Souvent on découpe. Parfois 10 fois, on ne faut pas s'énerver.
C'est hyper important à entendre, oui, ça. Hein. Oui. Parce que je précise que tout le monde n'a pas commencé la couture au confinement et aujourd'hui a une marque de vêtements.
Ah, oui, c'est ça. Oui, non, mais je découds. J'ai passé presque plus de temps à découdre qu'à coudre. Mais ça m'amuse parce qu'après, à la fin, il y aura un résultat et c'est pas grave. C'est pas grave, donc on continue et c'est très satisfaisant parce que même si... c'est toujours long. Mais on arrive à quelque chose qu'on peut porter à la fin, ça va être utile, c'est très agréable. Même si jamais c'est raté, on aura utilisé ses mains et ça fait du bien à la tête. J'ai perdu le fil. Mais...
Non, c'était sur tes conseils, mais là, oui. Pour le coup, c'était avec le cœur. Donc beaucoup par l'expérimentation.
Et de recommencer. Ouais.
Et alors Daphné, je vais me tourner vers toi maintenant parce que Mona, ton associée et toi, pareil, vous n'aviez aucune connaissance en couture au moment où vous avez lancé Risap. Est-ce que tu peux nous présenter Risap et nous dire pour quelles raisons vous vous êtes lancée dans cette aventure?
Merci beaucoup Victoire. Donc bonjour à tous, je suis Daphné Grebenga, donc la cofondatrice de la marque d'upcycling Risap Paris. Donc nous on s'est lancé pendant le confinement aussi, mars 2020. On a aussi appris à coudre pendant le confinement, mais on a très vite monté une équipe qui était beaucoup plus expert sur la partie marque. Donc l'idée, en tout cas l'histoire de Risap, elle est née parce qu'on ne se sentait plus en accord avec notre manière de consommer la mode. Et ensuite, on a constaté qu'il y avait énormément de vêtements partout, que ce soit dans nos placards, mais aussi entassés dans des hangars, dans des stocks, etc. Donc on s'est dit, nous, on va partir de ces vêtements-là pour leur redonner une nouvelle vie. Donc, on va prendre ces vêtements et on va les transformer parce que on s'est dit que les gens ne veulent plus les porter comme tels et on va leur donner une nouvelle vie dans un aspect différent, une fonctionnalité différente. Et comme ça, on a créé Risap. Donc, l'idée, nous, on ne savait pas coudre. Donc, on a appris, surtout, on s'est associé avec des personnes qui savaient coudre. Et c'est un peu ce que disait Teresa tout à l'heure. C'était vraiment du bricolage parce que nous, quand on a commencé à faire nos premières pièces, on n'avait pas de patron. Les premiers patrons de Risap sont sortis peut-être, un an et demi après la création de la marque. Au début, on était, on a telle pièce, qu'est-ce qu'on visualise, qu'est-ce qu'on peut faire, on coupe dedans, on teste. Et puis la phrase qu'on nous répétait, c'était apprendre à coudre, c'est aussi apprendre à découdre. Donc du coup, c'était ça. Donc, là, ça marche pas, on teste un autre truc, etc., etc. Et j'ai aussi perdu le fil de la question, parce que je peux raconter ma vie très longtemps.
J'en ai plein d'autres, mais j'adore cette approche décomplexée et qui montre qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de niveau requis et qu'il faut y aller vraiment à l'audace et à l'intuition. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont vous sourcez vos matières? Parce que vous avez donc une vraie marque d'upcycling avec un parti pris, on en parlait avec Mona, mais de réparation ou de transformation visible. D'ailleurs, tu portes du Risap sur toi aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez au départ sourcé et comment, maintenant que vous avez grandi, vous pratiquez le sourcing?
Alors, chez Risap, nous, l'upcycling, on le fait vraiment, on part de la matière qui est post-consommation. Donc, c'est des vêtements qui ont déjà été portés. Et pour en trouver, on se rend directement au centre de tri où on achète des balles de jeans ou de chemises, enfin de typologie de produits. Et ensuite, on va les transformer chez nous. Donc, quand on a commencé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on n'avait pas forcément de catalogue produit. Donc, on voyait une pièce en friperie, on était content, ça peut rendre bien, etc. On la transformait. Mais comme on voulait aller plus loin dans le concept, concept et vraiment toucher un maximum de personnes, on s'est dit que l'idée, ce serait peut-être de figer des modèles et transformer ces modèles et transformer les pièces qu'on récupérait en grande quantité selon ces modèles-là. Donc on a commencé donc avec du jean parce qu'on trouvait énormément de jeans en seconde main et donc on s'est dit on va partir du jean et on va aller proposer une palette de produits différents. Donc on va transformer des jeans en jeans mais aussi des jeans en accessoires et puis aussi associer du jean à d'autres matières et vraiment créer une offre complète autour du jean et en upcycling.
Il y avait aussi, je crois, cette volonté de revaloriser une matière qui est extrêmement polluante à produire et qui est quand même intrinsèquement durable parce que la qualité d'une toile de Nîmes, quand elle est bien faite, lui permet d'avoir plusieurs vies.
Exactement. Donc nous, c'était un hasard, en toute transparence avec vous, le fait qu'on se dise on va partir du jean parce qu'on trouvait ça sympa et que c'était un intemporel. Et derrière, en fait, tout ça, on s'est dit mais en fait, c'est quand même le cocher toutes les cases, enfin faire d'une pierre 100 000 coups parce que le jean, c'est extrêmement polluant à produire, que ce soit en consommation d'eau ou dans les pratiques, les process de production. Donc là, on disait top. La case écologie est cochée et c'est parfait pour nous, mais aussi sur l'aspect plus social, parce qu'en fait, le jean, la plupart du jean ne sont plus faits, en tout cas en Europe, enfin, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui produisent du jean en Europe, c'est fait de l'autre côté de la planète dans des conditions vraiment désastreuses. On se dit si on prend du jean qui est déjà fait, on va pas lancer une nouvelle production, on va pas alimenter un peu ce système là qui nous dégoûte. Donc seconde case cochée. Et puis en plus sur le style, tout le monde porte du jean, c'est un intemporel, on aime beaucoup, hop, troisième case cochée, on a foncé, on est parti.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la direction artistique, le parti pris vraiment esthétique de la marque et à qui vous avez cherché à vous adresser avec cette marque, qui sont aujourd'hui les consommateurs de Rissap?
Alors, quand on a commencé Rissap, on n'avait pas de produit. Donc nous, on a commencé sur Instagram. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voulait vraiment créer une communauté avec des personnes avec lesquelles on partageait les mêmes valeurs, avec qui on était un peu dans un mouvement où « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc, toutes ces personnes-là, forcément, c'était des personnes qui nous ressemblaient pour la plupart. Donc, c'était des jeunes femmes en quête de sens, en quête de solutions pour mieux s'habiller. Donc, notre direction artistique, elle a découlé vraiment un peu de cette communauté-là. Et on voulait proposer des vêtements tendance, casual, vraiment qu'on peut porter tous les jours, mais qui respectent nos valeurs. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur le dénime. C'est la pièce, je pense qu'on a tous une pièce de dénime chez nous. Tous les jeunes ont du jean. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on est parti.
C'est intéressant parce que vous faites tout en France avec des matières récupérées et forcément, le coût final du vêtement est assez élevé par rapport notamment aux marques de fast fashion qui peuvent aller chercher les mêmes communautés de clients que ce que vous avez, ceux et celles que vous avez sur Rissap. La question du prix, elle est centrale quand on s'intéresse... quand on cherche à acheter un vêtement, et souvent, le fait de se mettre à la couture aide à comprendre ce prix. Je me tourne vers toi, Teresa. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que le fait de commencer la couture t'a fait réaliser, peut-être que tu es une ancienne consommatrice de marque de fast fashion, le vrai coût d'un vêtement?
Oui. Avant le confinement, je m'étais un peu mis au tricot, et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de la durée le temps qu'il fallait pour faire un vêtement. Un pull tricoté à la main, c'est plus de 100 heures de travail. Donc, une fois qu'il est fait, on l'aime toute la vie, je pense. Et là, je me suis vraiment dit, mais c'est ça, je veux des vêtements dont je me lasserai jamais. Et donc, c'est là où j'ai commencé déjà à faire attention, peut-être pas tellement si c'était déjà pas forcément des marques de fast fashion, mais pas forcément des marques super green. Mais l'essence de ce que je recherchais, c'était vraiment des pièces que j'aimerais très fort longtemps. Ça a commencé plutôt comme ça. Et après, la couture, oui, là je ne peux plus rentrer chez Uniqlo ou Zara ou H&M. Non.
Donc, ça a vraiment significativement diminué tes achats.
Drastiquement,
quoi.
Oui.
OK. Est-ce que, Marine, tu as des retours d'expérience de personnes qui ont participé à l'atelier, qui sont mis à la couture grâce à Mondial Tissu et qui ont aussi fait ce chemin?
Alors, malheureusement, on n'a pas suffisamment d'informations sur les retours des clients pour le dire. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se mettent. Alors, c'est plutôt en fonction du profil, au fait, de clientes qui viennent maintenant dans les ateliers, où on se rend compte qu'il y a une prise de conscience qui est réelle sur le côté je préfère faire moi-même parce que c'est de la production locale, c'est de la slow fashion et je vais pouvoir faire quelque chose de plus à mon image, de personnaliser et qui va faire, comme tu disais, Teresa, que tu vas pouvoir le garder toute la vie, parce que c'est quelque chose qui te correspond plus et que tu as vraiment choisi, en fait.
Ouais, on va en parler après la question du bien-aller avec toi, Mona. Juste avant, Daphné, est-ce que, pour finir sur le prix, tu peux nous expliquer comment est-ce que vous faites pour faire cet effort de pédagogie justement auprès de vos clients pour proposer un jean qui va valoir 150 euros plutôt que 30 ?
Alors, avec Rissap, on communique énormément sur les réseaux sociaux, forcément. Et en fait, nous, on essaye vraiment de, un peu de montrer comment on produit nos vêtements. On voit beaucoup les coulisses de Rissap, comment ça se passe. Et on explique, en fait, tout simplement. On leur dit, nous, le jean, on va l'acheter tant. C'est tant de temps de travail. C'est les gens qui travaillent dessus sont rémunérés tant. Donc, le jean, au final, il coûte ce prix-là. Mais derrière, c'est ça qui se cache. C'est pas uniquement, tenez un prix et puis oui c'est fait en France et basta. Non, on essaye de vraiment de montrer il y a des gens à payer, on est en France et puis les gens sont heureux parce qu'ils sourient beaucoup dans nos stories ils sont contents d'être là, donc voilà. Donc vraiment c'est je pense la sensibilisation ça passe par tout simplement parfois juste montrer ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce qui se passe. Typiquement, je rebondis sur ce que disait Teresa. Moi, je avant Rissap, je ne savais pas. Sincèrement, je pense que c'était opaque toute la partie production d'un vêtement. Je me disais, il arrive juste en magasin. Je me posais même pas la question. Et ça peut paraître franchement bête, mais je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Si on ne s'y intéresse pas, on ne peut pas savoir. Alors que si nous, en tout cas nous, Rissap, on prend le parti de montrer, si on montre, on se dit « Ah ok, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, mais peut-être que oui, il faut payer les gens. Ah oui, mais peut-être qu'ils achètent les vêtements. Ah oui, mais peut-être que... » Et comme ça, je pense que les gens commencent à comprendre qu'il y a un prix à payer.
Ou que si le prix est dérisoire, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Exactement.
Et si je ne me trompe pas, vous faites aussi de la sensibilisation, alors en dehors des réseaux, mais au sein des entreprises, pour le compte d'entreprise, justement avec des ateliers chez Rissap, donc plutôt une activité en B2B. Est-ce que tu veux nous en dire un mot rapide ?
Donc, du coup, avec Rissap, on veut vraiment démocratiser la pratique de l'upcycling. Donc, on propose nos produits upcyclés faits par nous, mais on veut aussi mettre l'upcycling dans les mains de tous. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi bien avec des particuliers que des entreprises pour les accompagner à créer eux-mêmes des pièces upcyclées. Il y a énormément de marques qui ont du stock dormant, qui ont du textile qui dort ou qui ne savent pas quoi en faire. Nous, on leur dit, écoutez, on peut leur redonner une vie, on peut prolonger leur durée de vie et venez, on va vous montrer comment on fait. Mais vous allez le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé, en fait, tout un service d'atelier, que ce soit pour les collaborateurs des entreprises, où là, vraiment, on vient en animation team building avec leur tissu, mais aussi en animation commerciale, c'est-à-dire qu'on va aller proposer cette animation-là à leurs clients et leur montrer aussi, donc c'est encore une nouvelle voie aux clients, que vous pouvez vous aussi allonger la durée de vie de vos pièces préférées, de votre marque préférée. Et derrière, on va aussi faire de la formation pour les entreprises. Donc, ça va être peut-être pour les stylistes, pour qu'ils pensent un peu plus comment je pourrais upcycler le vêtement que je suis en train de faire qui va être consommé une première fois, mais comment il pourrait être consommé une seconde fois, mais un peu différemment, etc. Donc vraiment, on essaye de pousser l'upcycling sur plein d'axes différents.
On voit, et c'est assez génial, qu'il y a une vraie valeur ajoutée humaine en fait à toutes vos activités, que ce soit donc côté professionnel, le partage sur les réseaux, donc avec la communauté de clients, les ateliers Mondial Tissu qui permettent aussi d'échanger en direct. Et Tilly fait pareil, vous êtes une application, mais vous êtes aussi un service au départ à domicile. Et aujourd'hui, tu le disais, avec le colisage, vous allez toucher des secteurs de la France où il n'y a pas de styliste encore à dispo. Mais par contre, il y a des entretiens téléphoniques réalisés. Donc, vous êtes hyper proche des clients. Quelles sont selon toi les principales motivations en fait, des gens qui vous contactent ? Est-ce que c'est d'abord économique ? J'ai conscience que je vais économiser de l'argent en faisant réparer un vêtement. Est-ce que c'est le bien-aller qu'on a évoqué ? Est-ce que c'est autre chose avec ton expérience ?
Alors, en effet, le lien avec le client est hyper important chez Tilly et je pense que c'est de là que naissent beaucoup de choses et beaucoup de conscience sur comment on entretient et on fait durer son vêtement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens viennent vers nous. Il y a une vraie dimension sentimentale. En premier, on a des gens qui sont extrêmement attachés à certaines de leurs pièces. Même si ce n'est pas des pièces qu'ils ont payées cher, c'est des vêtements qui les ont accompagnés dans des moments de leur vie et où ils ont envie et besoin qu'elles les accompagnent encore. Donc là, c'est génial parce que c'est des moments de vie qu'on adore où on va vraiment faire durer une pièce et des fois, on la revoit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en rendez-vous parce qu'on accompagne tous les petits accidents qu'elle a pu avoir. On a la question de la retouche. Évidemment, sur la retouche, il y a deux questions. Il y a le vêtement qui est déjà dans le placard, qu'on a déjà acheté et qui, du coup, ne va plus. Le vêtement un peu trop petit, le vêtement un peu trop grand, où là, les gens se disent bah, « c'est quand même dommage, je vais le faire retoucher pour permettre de le porter ». On a aussi la retouche sur vêtements neufs qui existe, qui est un vrai sujet, qui est un très, très gros sujet, où le vêtement n'est pas portable en l'état s'il n'est pas retouché, donc sur du vêtement neuf. Et il y a éventuellement, évidemment, la dimension économique où en fait les gens ont conscience que faire réparer une de leurs pièces va être une solution qui est raisonnée et qui va leur coûter un prix raisonnable par rapport à l'achat d'une nouvelle pièce. Donc ça, on se rend compte qu'à force de répétition et d'engagement, c'est quelque chose qui marque les esprits et qui devient un réflexe où on se dit « oui, en effet, en fait, il y a d'autres solutions qui existent ». Et du coup, c'est les solutions qu'on propose chez Tilly et c'est vraiment là-dessus qu'on accompagne nos clients avec ce lien couturier-client qui est toujours, même si c'est dans le système de colis qui se fait maintenant à distance, qui est au cœur en fait de la relation avec le client et qui permet de l'accompagner sur une nouvelle manière de consommer en fait.
Alors, je voudrais rebondir sur deux choses très importantes que tu as dit. La première, qui est passée inaperçue mais qui moi me choque, c'est le fait qu'un vêtement acheté neuf soit importable en l'état. Est-ce qu'on peut parler du concept du prêt-à-porter qui est censé aller à tout le monde et qui va à personne en fait?
On va en parler parce que c'est un vrai sujet.
Parce qu'en plus, c'est une offre que Tilly développe maintenant pour le compte des marques.
Exactement. Donc maintenant, on est aussi en train de développer ça. Le problème du prêt-à-porter, c'est qu'il n'est pas censé aller à tout le monde, c'est qu'il est censé aller au plus grand nombre. Et là, on est en plein dans le problème, voilà, on a mis les pieds dedans. Aller au plus grand nombre, ça veut dire respecter une norme, et une norme, on sait que ça n'existe pas. Donc, le prêt-à-porter ne fonctionne pas sans le savoir-faire du couturier qui retouche le vêtement. Ça, il faut que ça soit clair. Un vêtement ne peut pas aller à toutes les morphologies ou à toutes les typologies de corps et à toutes les spécificités, c'est faux. Donc, le savoir-faire du couturier est obligatoire quand on parle de prêt-à-porter. Donc ça, c'est le béaba. Ta deuxième question était...
La deuxième question, c'est quand on parlait de la démarche volontaire d'un client qui a une demande spécifique par rapport à un vêtement, mais vous faites aussi de la transformation, alors des oubliés du placard, il y a un copyright sur cette, sur cette expression. Comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut appeler un styliste en disant voilà, j'ai 10 trucs dans mon armoire, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir des idées pour les transformer et les upcycler notamment?
Exactement. Et en fait, c'est là que la magie opère, c'est quand le client ouvre son dressing au styliste. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça marche, c'est que le client, il y a un lien de confiance qui se tisse. On vient quand même au domicile des gens. Donc, de toute façon, on attaque sur une relation de confiance et où on va comprendre et le style de notre client, ce qu'il aime, comment il aime porter ses vêtements. On voit même son intérieur, donc on comprend plein de choses. C'est vraiment c'est un rendez-vous, une relation d'intimité, le rendez-vous avec un styliste. Et le moment où le client ouvre son dressing, et ben voilà, la magie opère, le styliste regarde, prend tous les vêtements et on regarde vraiment l'entièreté de ce qu'on peut faire. Et en fait, là, on parle de créativité et la créativité n'a pas de limite avec nos couturiers. Et donc, on s'attarde vraiment à travailler avec notre client. OK, qu'est-ce que vous aimez et de quoi vous auriez envie? Et on répond à la question par la couture.
Est-ce que, Marine, tu peux nous parler justement du lien additionnel représenté par ces ateliers avec vos clients? Et quels sont pour Mondial Tissu, donc au-delà des bénéfices économiques éventuels, les bénéfices extra-financiers, en fait? Qu'est-ce que ça a permis d'acquérir à la marque, ces ateliers?
Alors, le lien, oui, il est évidemment très fort. Il est moins fort parce qu'on rentre pas chez le client. C'est le client qui vient chez nous en magasin. Alors, on a essayé d'aménager un espace un petit peu à part dans le magasin pour que ce soit justement plus cosy, voilà, un peu séparé de la surface de vente où parfois ça peut être un petit peu mouvementé. Voilà, donc il y a un espace un petit peu plus à l'écart pour les ateliers et il y a un lien qui se crée forcément avec le coach couture dans l'accompagnement du projet personnel parce que la personne va dire ben voilà, moi j'ai choisi de faire telle pièce et notamment on avait un témoignage d'une influenceuse qui était venue sur un des ateliers recréation récemment, qui disait qu'elle était venue réparer une jupe que sa grand-mère portait, quand elle était tout bébé, elle avait retrouvé une photo de sa grand-mère quand elle avait fait la rencontre avec donc, sa petite fille qui était venue en magasin. Voilà, elle portait cette jupe-là à la maternité pour rencontrer sa petite fille. Donc, c'est cette jupe-là que la fille avait héritée et venait réparer, en fait. Donc, l'élastique était distendu à la taille. Elle était venue changer l'élastique. Donc, c'était sa première réparation textile. Elle n'avait jamais cousu. Donc, pour elle, c'était une immense fierté de pouvoir donner une seconde vie à la jupe de sa grand-mère. Donc il y a toujours une histoire affective forte. On voit aussi beaucoup de clients qui viennent en magasin parce qu'ils viennent de récupérer la machine de leur grand-mère ou de leur mère et qui se disent je veux en faire quelque chose, j'ai hérité, en fait c'est un héritage un peu encombrant pour certains, mais ils disent il faut que je trouve quelque chose à faire de cette machine et prolonger l'histoire. Et donc il y a beaucoup d'histoires de vie avec la couture sur les différents projets. Et ce qu'on voit dans les bénéfices, au-delà de l'aspect financier, alors l'aspect financier, en toute transparence, il est discutable, entre guillemets, ça dépend par rapport à quoi on se compare. Si évidemment on se compare par rapport à des créations de la fast fashion, faire soi-même ses vêtements, ça coûte plus cher. Si on se compare par rapport à des vêtements de qualité, de marque, là, c'est tout à fait, le prix est largement justifié, voire inférieur. Donc, au-delà de l'aspect financier, ce qui est vraiment important pour... alors, on l'a mesuré avec des sondages auprès de nos clients. 76% de nos clients trouvent la notion de plaisir dans le fait de coudre. Et donc, le bénéfice principal, la motivation principale pour la couture, c'est le plaisir de faire soi-même. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est la première motivation pour tous nos clients. Voilà, et on parle même parfois de couture-thérapie. Je crois de plus en plus.
Craft-thérapie, art-thérapie, carrément.
Ouais, sur le fait d'être dans une activité physique, technique qui nous absorbe et qui nous permet de nous évader aussi. Voilà.
Oui, tout à fait. Ça a été démontré scientifiquement pendant le confinement, mais faire des activités manuelles, c'est bon pour la santé mentale. Je vous invite toutes et tous à vous mettre à la couture si c'est pas déjà le cas. Et je pense que ceux qui y connaissent sont déjà convaincus. Je voudrais revenir sur la notion d'upcycling. Tout à l'heure, Daphné, tu nous as parlé de la notion de post-consumer. Donc, c'est-à-dire, vous transformez des vêtements qui sont finis et qui ont déjà été portés. Le pré-consumer sont des vêtements qui n'ont pas été portés ou bien des textiles qui n'ont jamais été servi à fabriquer des vêtements. Quand on a préparé cette table ronde, Teresa, tu me disais que les gens avaient souvent une image un peu peut-être idéalisée de l'upcycling, au sens où ça peut paraître plus simple finalement de faire un vêtement à partir d'un autre vêtement. La réalité est tout autre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
C'est vrai que quand on a un vêtement déjà fini, on se dit bon, on fait un peu de customisation, on coupe ici, on remet là, finalement la base est déjà faite, c'est bon. Mais c'est vrai, quand on le fait chez soi, on peut se dire... Enfin, je trouve aussi que c'était plus facile. Mais quand on veut passer à l'échelle, donc industrialiser, et que là, on va rencontrer des ateliers et qu'on leur demande de coudre à partir de vêtements finis, on ne met pas un rendez-vous à leur faire faire ce qu'on a envie de faire. On met un an. Ça fait un an que j'essaie de faire produire seulement une pièce. Donc ça, c'est les caleçons. Simplement parce que chaque chemise sont différentes. Et à chaque pièce, on va devoir avoir un processus totalement différent. Donc, pour donner un exemple, pour faire un postérieur comme ça, il faut 60 patrons différents. Il va falloir à chaque fois adapter en fonction de la patte de boutonnière, de la largeur, de la longueur, de la façon dont l'ourlet est fait. Il va falloir s'adapter. Donc, on ne demande pas aux couturières de suivre un patron. On leur demande de s'adapter, de prendre des initiatives et d'avoir un vrai... de faire marcher à chaque fois son imagination, mais sa dextérité pour arriver au résultat. Et le résultat sera jamais, ils seront jamais tous pareils. Donc ça montre bien que les processus sont toujours différents. Et c'est un énorme travail, ça, de faire, de transmettre l'upcycling à quelqu'un d'autre. On a l'impression que si nous on le fait, tout le monde peut le faire. Mais non, c'est pas du tout pareil. Et par exemple, rien que la coupe, en fait, c'est là où tout se joue, c'est au moment de la coupe, dans un processus de tissu différent, de tissu normal, de processus de création de vêtements normal. On a un matelas de tissu, un patron, on découpe au laser, et on a, je sais pas, une centaine de pièces qui est découpée en 30 secondes par la machine. Quand on fait de la coupe à partir de chemise, c'est chemise par chemise. Et donc, ça multiplie. Donc, par exemple, une coupe de vêtements classiques, ça va coûter 30 centimes pièce. Une coupe pour un postérieur, ça va coûter 4 euros pièce. Donc, on multiplie les prix par l'infini. Et ça compte beaucoup. Enfin, ça se répercute directement sur la pièce. En plus du côté complexe, il y a le coût qui est beaucoup plus important.
Et c'est très important cette notion pour la déconstruction du prix, mais aussi parce que ça peut faire le lit de greenwashing. C'est vrai qu'on entend de plus en plus de marques qui s'approprient le terme d'upcycling, et notamment en disant on revalorise les stocks dormants, ce qui peut être vrai. Et les stocks dormants peuvent aussi être juste les stocks de tissus de l'année dernière qui n'ont pas été utilisés. Donc, ça décrédibilise un petit peu ce terme. Toi, travaillé un mémoire, enfin un travail universitaire sur le sujet. Est-ce que c'était justement pour parler de ces questions ?
Oui, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'upcycling. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Parce que quand on tape upcycling sur Internet, il va y avoir plein de marques qu'on connaît. Et en fait, ça va être beaucoup, finalement, des fins de rouleau. Est-ce qu'une fin de rouleau, c'est un déchet ? Je sais pas. Est-ce qu'une fin de rouleau, ça demande un processus créatif différent de la production classique ? Peut-être pas non plus. Oui, c'est des séries plus limitées, mais finalement, ça reste de la couture assez classique. Les process ne changent pas. Et donc, je cherchais finalement, qu'est-ce que je fais, moi, si je fais du vêtement fini, comment ça s'appelle ? Et ben, c'est toute une grande famille d'upcycling et on n'est pas forcément informé là-dessus. On n'a pas forcément envie de savoir quelles sont les différences. Le consommateur trouve qu'upcycling, ben, c'est chouette, c'est créatif, peu importe ce qu'il y a vraiment derrière. Et donc, j'ai contacté justement RISAP et plein d'autres marques, Napron, etc., pour savoir pour eux qu'est-ce que c'était la définition de l'upcycling. Et chaque fois, c'était une définition différente. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Le mémoire n'est pas fait pour donner son avis, mais pour récolter un peu et faire l'état des lieux de toutes les informations. Et c'est très, très, très vaste. Et j'ai pas la réponse encore.
Ouais, non, c'est un travail qu'on fait aussi avec la Fédération de la mode circulaire. Mona, tu confirmes qu'il y a besoin de clarifier ces termes et donc de globalement participer à l'effort de sensibilisation et d'éducation, que ce soit des consommateurs et des consommatrices et des marques.
Oui, je confirme totalement. Je pense que sur l'upcycling aussi, la définition, nous, on avait aussi eu beaucoup de mal au début à vraiment comprendre quand d'autres marques faisaient de l'upcycling, on se dit, mais attends, mais comment elles font pour faire cette pièce-là à partir de vêtements, on comprenait pas du tout. Et après, on a dit, oui, OK, ils partent de fin de rouleau et on est tous dans la même famille de l'upcycling. Mais partir du vêtement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que partir de fin de rouleau. Et nous, ce qu'on avait remarqué, je réponds pas à ta question, mais je répondis sur ce qu'a dit Teresa, c'est que quand on travaillait avec des couturiers, vraiment expérimentés, qui ont fait qui avaient énormément de technicité, et quand on leur demandait de faire des pièces upcyclées, ils avaient beaucoup plus de mal que les autodidactes avec qui on travaillait, parce que pour eux, ils n'arrivaient pas à contourner leur savoir et se dire en fait j'ai le droit de faire ça, parce que alors que quand tu pars d'une page blanche, tu dis j'ai le droit de tout faire, et pour eux non, il y a des règles à suivre, etc. Donc c'était très compliqué au début sur ça, et du coup c'est pour ça que c'est compliqué de travailler avec des ateliers entre guillemets classiques sur de l'upcycling, parce qu'ils vont avoir du mal à contourner les règles et se dire j'ai le droit de faire ces choses-là. Et pour venir sur ta question, désolée Victoire, oui, c'est hyper important le travail de sensibilisation, et franchement il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je pense que pour toute grande transformation, et là on est dans un monde en transformation, que ce soit sur le sujet de la mode et tout un tas d'autres sujets, ça doit passer par de la sensibilisation, par de l'éducation, et pas par la culpabilisation des gens de manière générale. C'est juste leur montrer qu'il existe des choses bien, leur montrer qu'il existe des initiatives différentes qui peuvent les alimenter. Mais si ça les alimente pas à l'instant T, ce n'est pas grave, ça les alimentera peut-être plus tard, mais au moins ça leur ouvre les yeux et une voie vers qu'est-ce que je me renseigne sur ce qui pourrait me correspondre maintenant pour mieux faire.
Parfait, donc on va clôturer cette table ronde avec les take-home messages, c'est se mettre à la couture, participer à des ateliers, partager ça sur les réseaux sociaux et montrer que c'est économique, écologique et bon pour la santé mentale. Je pense que tout le monde est d'accord avec cette conclusion. Je crois que la notion de durabilité et de prolonger la durée de vie des vêtements, elle est intrinsèquement liée au fait de s'y intéresser, d'apprendre à coudre et de vouloir continuer sa vie avec son vêtement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La dernière question peut-être que j'aimerais vous poser, plus d'ordre inspirationnel, c'est qu'est-ce qui vous anime dans vos aventures respectives qui sont toutes hyper différentes ? On peut procéder dans ce sens.
Moi, je te dirais la passion du métier et le savoir-faire et tout ce que représente la couture quand on la pratique. C'est cette importance-là de faire et de faire partie de ce que représente le métier de couturier qui, aujourd'hui, je pense qu'on l'a expliqué, et un savoir-faire qui est nécessaire. Voilà, il faut savoir coudre et il faut qu'on ait des artisans qui soient capables de ça.
Merci, Mona.
Moi, c'est vraiment un sentiment que je ressens physiquement. Ça me procure de l'adrénaline de créer d'avoir une pièce en tête, de la faire, de réussir et de la porter. Et le moment où vraiment on est devant la machine, il se passe un truc dans la tête. Ça fait vraiment beaucoup de bien et ça rend fier, ça rend heureux. C'est inspirant pour les autres et c'est positif. Ou le côté adrénaline, oui, carrément. Sport extrême.
Gagner ta journée, et ça vaut toutes les heures à découdre.
Oui, complètement.
Marine ?
Alors, ce qui m'anime, moi, c'est de pouvoir démocratiser et moderniser la couture, de pouvoir l'étendre à un maximum de personnes et que justement tout le monde puisse toucher du doigt cette adrénaline, cette joie de réaliser des choses par soi-même, de pouvoir affirmer sa propre personnalité aussi grâce à la couture.
Effectivement, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu disais quand les clientes viennent en atelier, moi je rêve du jour où on dit cliente et client parce qu'il y a 50-50% de genre autour de la table, enfin, et plus, mais en tout cas que tous les âges sont représentés et que tout type de personne est là.
Il y a de plus en plus d'hommes qui viennent dans les ateliers, donc c'est une bonne nouvelle. Et l'année dernière, on a formé 31 000 clients ou clientes dans les ateliers couture, donc une belle progression. On était à 15 000 en 2019, donc 31 000 l'année dernière, et voilà, on a j'espère continuer sur cette lancée.
Génial, donc on renvoie les gens sur le site pour ça. Et Daphné, pour conclure.
Merci. Et ben moi, ce qui m'anime, c'est de me dire que ce qu'on propose, en tout cas, ça permet de donner à des personnes en recherche d'alternatives, une alternative, et de les alimenter dans la bonne voie et se dire, je sais pas coudre et j'ai pas forcément envie d'apprendre à coudre, je vais chercher une pièce upcyclée. J'ai envie d'apprendre à coudre et transformer ce que j'ai dans mon placard. Je peux faire un atelier avec RISAP et transformer une pièce qui me plaît. C'est vraiment mettre à disposition des solutions pour tous.
Génial, merci beaucoup, merci à toutes. N'hésitez pas si vous avez des questions et si c'est trop intimidant, de façon plus informelle, en se baladant dans l'appartement. Voilà, vous êtes installés, on peut démarrer ce deuxième talk. Merci pour celles qui nous ont rejoints. Donc on va entamer une deuxième discussion autour cette fois-ci de la seconde main et de la personnalisation et essayer de comprendre comment est-ce que ça peut nous amener à aller vers un dressing qui est à la fois responsable mais qui fait aussi envie. Donc même format que ce matin, 45 minutes à peu près et puis un quart d'heure de questions mais qui pourraient être posées de façon plus informelle au cours de la suite de la journée. Pour cette table ronde, donc, on change d'invité. J'accueille Virginie Bell de l'association Tremplin. Je vous donne après l'occasion de vous présenter en détail. Céline, il faut que tu me redises ton nom de famille.
Le Nédélec,
pardon. De Maison-Cy. Donc, Marine, toujours. Marine Nigel-Lacroix, qui est de Mondial Tissu. Et puis, Rino Coletti, fondateur de Violette Sauvage. Donc, ce matin, on a vu que le prêt-à-porter, en général, nous amenait vers une uniformisation de nos dressings, de nos goûts, de nos looks. On n'était pas toujours au meilleur de nous-mêmes en termes de propositions esthétiques. Et donc, pour essayer de remédier à ça, la seconde main de qualité, le vintage en particulier, peut être une solution, de même que la personnalisation. Je vous propose de commencer cette table ronde, une fois n'est pas coutume, en donnant la parole à un homme. Rino, toi, tu as compris que la seconde main de qualité pouvait être une vraie proposition de valeur, notamment esthétique, avant tout le monde, avant que ça devienne un mouvement hype. C'était en 2010. Est-ce que tu peux nous parler de Violette Sauvage et te présenter, s'il te plaît?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Rino. J'ai un parcours qui est un petit peu classique, on va dire. J'ai fait une école de commerce. À l'issue de cette école de commerce, j'ai voulu faire une espèce de service militaire dans la grande distribution. Donc, j'ai fait mes armes pendant 4 ans dans la grande distribution. Et ce passage-là m'a permis de prendre conscience que notre société était un petit peu... on va dire à côté de ses pompes quant à ce qui a trait à la production, à la consommation et vraiment à la gestion des ressources. J'ai fait 4 ans là-bas et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de faire changer un petit peu la façon dont on avait d'aborder la consommation et le plaisir que le marketing nous poussait à devoir prendre satisfaction dans l'achat. La vie a fait que j'ai rencontré la cofondatrice de Violette Sauvage, avec qui on a monté le projet en 2010. C'est la synergie d'une personne qui était dans le monde du vintage, dans le monde du burlesque et dans le monde de la brocante, et de moi qui ai fait de la grande distribution. Et donc à deux, on a créé les premiers vide-dressing. Au début, un vide-dressing, c'était une réunion de copines où chacune partageait son dressing et un petit peu ses passions. On a voulu faire les choses beaucoup plus en grand, dans le sens où on s'est rendu compte que pour qu'un vêtement puisse avoir une vraie valeur et le sortir un petit peu des brocantes comme on pouvait faire avant, il fallait qu'il y ait un contexte sympa. C'est-à-dire que l'emballage est très important dans l'appréciation des choses. Et donc, étant à Paris, capitale de la mode, on a commencé à faire des vide-dressing de plus en plus grands, jusqu'à arriver en 2014, au Carreau du Temple, où là, c'était le plus gros vide-dressing qu'on ait pu faire, et ça a lancé vraiment Violette Sauvage à ce moment-là.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'à l'époque et avant l'avènement notamment d'Instagram, vous avez construit cette activité, le type d'événement, le rythme des événements, et comment est-ce que vous sélectionniez les personnes qui venaient ?
Alors au début, c'était très compliqué, dans le sens où avant nous, il y avait que des réunions de copines et ou des brocantes. Donc lorsque l'on frappait la porte de différentes salles, d'hôtels particuliers, d'usines désaffectées, à chaque fois on nous disait « Ouais, mais le contenu que vous allez proposer, il n'est pas du tout quali. On n'a pas du tout envie d'ouvrir les portes de nos lieux à de la fripe et à des choses qui n'étaient pas présentables. » Donc du coup, on a dû se remonter les manches, on a fait fonctionner notre réseau. On a eu la chance d'avoir une personne qui avait un super loft Perrère de 300 mètres carrés. Et c'est cette personne-là qui a permis de faire le premier vide-dressing un peu plus grand, qui nous a permis d'inviter des journalistes, qui du coup ont pu voir un petit peu ce qu'était un vide-dressing ordonné, structuré, quali. Et de là, de fil en aiguille, on est arrivé à faire des vide-dressings de plus en plus importants.
Oui, donc on va voir que la notion de hype et le désir, c'est vraiment fondamental et ça passe probablement même comme facteur motivateur avant la question économique ou la question écologique. Je me tourne vers toi Virginie, parce que toi tu t'es mis un double challenge, enfin l'association Tremplin, non seulement fait du réemploi à divers titres et sur plusieurs objets, mais en plus avec un format d'insertion et participe à l'économie sociale et solidaire. Donc double challenge, je peux te demander de te présenter et nous présenter l'association ?
Bonjour, donc je suis Virginie Belle. Je viens vous présenter l'association Tremplin, donc qui est basée à Bourg-en-Bresse, entre Lyon et Genève, dans le département de l'Ain, et on est les principaux collecteurs de textiles du département. Et donc on a une grosse partie de tri, on collecte à environ un peu 1100 tonnes de textiles chaque année. Et donc l'objectif de l'association, c'est vraiment de prioriser le réemploi et de justement proposer en fait des boutiques qui ne ressemblent pas à des boutiques moches où on va trouver du textile, mais vraiment d'avoir donc c'est Séverine qui s'occupe de ça et qui s'en occupe formidablement bien et qui crée en fait des boutiques en fonction de la qualité des vêtements qui sont collectés. Donc on a dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse une boutique dans le carré Amiot qui est un lieu un peu à la mode à Bourg, donc qui vraiment fait du textile, on va dire, supérieur, de la crème, ce qu'on appelle la crème. On a deux autres boutiques, une de 800 mètres carrés et une autre dans une autre petite ville qui fait un petit peu toutes les gammes de textiles. Et là, donc, comme en fait, ça a le vent en poupe aussi et que le réemploi est à la mode et qu'on a de plus en plus de clientèle qui le demande et qu'on essaie justement de bien trier pour pouvoir revendre le mieux possible, on va ouvrir 500 mètres carrés d'une grande boutique à Lyon, dans le quartier de la Guillotière.
Canon. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous remettre l'historique, les premiers espaces physiques jusqu'à cet espace de 500 mètres carrés à Lyon, qui est une super nouvelle. Bravo pour ça. Et nous dire un petit peu comment, déjà, qui sont les visiteurs de ces différents espaces, parce que donc l'offre produit diffère en fonction des espaces. Mais est-ce que les générations ont un comportement d'achat différent, vers quel type de pièces ils se tournent et comment ça a évolué avec ton expérience depuis ces dernières années?
Alors, Tremplin a été créé en 1987. Moi, je n'y étais pas à l'époque. Mais donc, c'est comme ça, en fait, que l'activité a débuté au niveau de la collecte. Donc, au début, ça avait vraiment une vocation, enfin, ça a toujours une vocation d'insertion. Mais on va dire que c'était à destination vraiment d'un public pauvre, on va dire, qui n'avait pas les moyens de s'habiller. Et en fait, il y avait une honte d'aller dans des boutiques de seconde main. C'était caritatif, on va dire. Et là, on voit vraiment que ces dernières années, le modèle a complètement changé. Et donc, ce qui était un frein à l'achat de seconde main, on n'allait pas dire forcément qu'on achetait de la seconde main. Maintenant, on va presque l'arborer. On en est fiers. et notamment des publics jeunes, en fait, où là, on sent qu'il y a une conscience politique aussi qui s'accompagne de l'acte d'achat. Alors, il y a deux populations. Il y a ceux qui s'en foutent, donc qui vont continuer à acheter pas cher. Et puis, bon, après, voilà, après, il y a plein de raisons sociologiques aussi. On va pas rentrer dans les détails, mais, et donc, maintenant, il y a une fierté, une conscience de faire, de réemployer des choses, justement, parce que ça a une vertu sociale et environnementale. Et c'est ce que Tremplin aussi... Ce Tremplin avait une vocation sociale, donc, et le conseil d'administration a voulu justement développer cet aspect environnemental qui est très important.
Et le fait de garder ce système de tri des pièces permet aussi, j'imagine, de laisser la seconde main plus accessible à des personnes qui en ont vraiment besoin et qui ne viennent pas uniquement pour le phénomène de hype, pour trouver un petit peu de la rareté, parce qu'on a vu récemment que notamment le collectif Emmaüs pouvait être mis en défaut par le manque d'approvisionnement, finalement, des pièces de seconde main.
Alors, en fait, il y a une réponse double. Non, mais je vais peut-être répondre. Donc, sur l'approvisionnement, en fait, il se trouve que avant, le modèle de l'insertion vivait vraiment par la collecte. Maintenant, il y a une concurrence avec Vinted et tous ces sites. Mais bon, tant mieux. Au moins, ça profite. Et puis, au moins, c'est pas jeté, c'est réutilisé. Mais en fait, je vois à Tremplin, le tri est très, très bien fait et de mieux en mieux fait. Ce qui fait qu'on arrive à bien caractériser les textiles et donc on arrive à approvisionner les boutiques et à répondre à une demande, quelle que soit en fait la qualité des clients. Je ne sais pas si c'était ça là.
Oui, la typologie. Okay. La typologie des clients. Effectivement, quand on préparait ce talk, je te disais que même si moi j'ai été biberonnée à la seconde main par des femmes de ma famille qui en avaient l'habitude, à l'époque, les endroits d'insertion dans lesquels on allait chiner, c'était plutôt pour les soirées étudiantes. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Céline, je me tourne vers toi parce que toi, tu es une aficionado du vintage. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire vestimentaire et quand la seconde main est arrivée?
Ouais, bah moi, je pense que j'ai un parcours assez typique des gens qui aujourd'hui consomment de la seconde main pour la hype, parce que ça, moi, m'a touché, ça m'a fait du bien, parce que moi, je consommais de la fast fashion en grande quantité, relative hein, évidemment, mais quand même en quantité. Mes week-ends étaient occupés à aller faire les boutiques chez Zara, chez Mango, etc. Et je pense que en vieillissant, parce que j'ai commencé à consommer de la seconde main, je dirais arrivé après 20 ans. Je pense qu'il y a une conscience un peu politique qui s'éveille, on commence à être un peu plus indépendant, on a aussi un budget à tenir. Et je pense que j'ai commencé la seconde main plutôt pour une question de budget au début, donc avec Vinted, etc. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment eu ce truc d'identité qui est arrivé après, parce que j'ai eu envie de peut-être plus de m'affirmer, de me défaire un peu de toutes ces robes qu'on voyait chez tout le monde. Enfin, je me rappelle vraiment de cette robe Zara avec les épaules dénudées à rayures. Et c'était devenu une blague parce que tout le monde la portait un certain été. Et je pense que j'ai eu envie de me détacher de tout ça. Et puis après, la couture est arrivée, donc j'ai commencé à faire mes vêtements. Et vraiment, cette identité, je pense que c'est ce pourquoi aujourd'hui, je continue à consommer du vintage. Et je pense que s'il n'y avait plus le problème environnemental, je continuerais à acheter de la seconde main et du vintage, parce que environnemental et humain, évidemment, parce que c'est trop amusant, c'est trop une marque d'identité. Je trouve ça beaucoup plus... Je m'amuse beaucoup plus depuis que je consomme du vintage et de la seconde main. Donc voilà, moi c'est un peu ça mon parcours en résumé, on va dire.
Oui, tu as différentes activités parce qu'on ne t'a pas présenté en détail, mais tu as une activité de création de contenu.
C'est ça.
Tu fais énormément de couture aussi, tu es pleine de talents variés et tu as récemment lancé une marque.
Ouais.
Peut-être tu peux la présenter.
Oui, bien sûr. Donc j'ai lancé ma marque il y a un an, un petit peu plus d'un an. Le nom a été déposé il y a un peu plus d'un an. Et donc, du coup, je voulais donc faire de l'upcycling. Ça, pour moi, c'était obligé. J'aime beaucoup, encore une fois, tout ce qui est éco-responsabilité, etc. Mais je ne voulais pas produire de nouvelles choses. Mais je me suis confrontée à beaucoup de problèmes. On en a parlé tout à l'heure à la discussion précédente. L'upcycling, partir de vêtements déjà existants, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de réadaptation, notamment si on veut faire produire. Donc, je suis partie de dead stock de tissus. J'ai eu la chance d'avoir déjà la visibilité avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai été contactée par des entreprises qui proposaient du dead stock. J'ai été contactée par des ateliers de production, etc. Donc, ça a été un super synergie, en fait, entre mon activité de créatrice de contenu et mon activité à côté quand j'ai créé ma marque. Et donc, du coup, maintenant, j'ai lancé ma première collection l'été dernier avec des vêtements faits en matériaux recyclés, donc en tissus dormants de dead stock. C'est pas vraiment des tissus recyclés. Et donc, j'ai tout fait moi-même et je me suis fait aider de deux stagiaires l'été dernier. Là, je fais tout moi-même pour l'instant, donc je suis toute seule. Et puis voilà, donc j'essaye vraiment de rester dans des valeurs humaines, dans des valeurs éthiques, dans des valeurs éco-responsables. J'essaye aussi de faire des vêtements qui soient adaptables aux morphologies, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une problématique de la fast fashion. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est des vêtements qui sont, je crois que c'est peut-être toi Marie qui l'a dit tout à l'heure, mais qui sont adaptés au plus grand nombre et pas pas à tout le monde, donc ça devient compliqué. Donc j'essaie de faire voilà, des vêtements qui soient vraiment adaptables et voilà.
Et alors, donc, tu mentionnais l'importance du dead stock pour des raisons écologiques et sociales, mais est-ce que, selon toi, il y a aussi une valeur ajoutée créative? Parce que c'est vrai que, de la même manière que quand tu t'habilles en seconde main, bah, c'est un petit peu la chasse au trésor et t'es contente de tomber sur quelque chose d'unique qui va te ressembler et dont t'as l'impression que si c'est la bonne taille, ça t'attendait là. Il y a cette contrainte de l'upcycling qui peut être un levier créatif, finalement.
Vraiment, complètement. Moi, ma phrase préférée, c'est de la contrainte née à la créativité. Je trouve que c'est une vraie chose. C'est que souvent, la plupart des créateurs, je pense, de mode, partent d'une idée et ensuite vont chercher les matières premières. Dans l'upcycling, on est souvent obligé de faire l'inverse parce qu'on est contraint par les tissus qui existent. Et c'est une vraie source de créativité. Ça peut aussi être une contrainte réelle parce que il y a des contraintes de productivité. Donc ça, c'est aussi un petit peu difficile. Il y a des contraintes de parfois, j'ai une idée et je ne peux pas l'accomplir parce que soit je ne trouve pas le tissu, soit il est trop cher, soit il n'y a pas les quantités nécessaires ou alors je suis obligée de les acheter en énorme quantité et je n'ai pas de budget. Enfin voilà, c'est tout aussi amusant que ça peut être contraignant, mais c'est vrai qu'on découle souvent beaucoup de créativité. Ça, c'est vraiment un bon point.
Marine, tout à l'heure, on a parlé des ateliers de couture de Mondial Tissu. On n'a pas mentionné le troc. C'est aussi une activité que vous avez développée et tu vas nous en parler en détail, mais je trouve que c'est assez amusant dans le sens où vous proposez à des personnes qui ont créé des pièces de venir les échanger ou les vendre. J'aimerais avoir ton avis sur ce que ça dit justement de ces contraintes créatives et de quels sont les profils de personnes et les profils de pièces qu'on voit sur ce type d'événement.
Alors oui, on a lancé les puces couturières le jour du mariage d'Annabelle.
Date mémorable.
Rappelle-moi la date exactement. 26 septembre 2020, merci. À Clermont-Ferrand, on n'était pas au même endroit du coup. Il fait froid d'ailleurs, c'est une tempête pratiquement. Donc en fait, le concept des puces couturières, c'est d'offrir un espace aux clientes donc sur les parkings des magasins, donc de façon gratuite. Hein, c'est vraiment la mise à disposition gratuite. Les clientes viennent avec leur table, leur tissu, leurs boutons, donc tout ce qui est mercerie. Ça peut être aussi des livres, de la laine et aussi potentiellement des créations et qu'elles vont vendre directement aux clientes qui viennent à cet endroit. Donc au fait, on a une trentaine, alors selon les magasins, selon l'espace à disposition, on peut avoir une vingtaine, trentaine d'exposants. Et au fait, c'est un moment très très convivial. Les clients sont très contents de pouvoir échanger les uns avec les autres, de trouver, de nicher une petite pépite. Il y a la notion de transmission aussi qui est très importante. Et ce qu'on voit aussi, c'est le lien qu'il peut y avoir avec les équipes de vente, où les clientes sont fières de montrer leur réalisation aux équipes de vente. Il y a un lien qui est assez fort. Et donc là, il y a cette fierté de pouvoir présenter ces réalisations. Donc on a lancé les puces couturières qui tournent maintenant sur une dizaine de magasins chaque année. Alors malheureusement, on ne peut pas l'étendre à tout le réseau parce qu'au fait, on ne peut pas utiliser tous les parkings de cette façon-là. Et puis, on est souvent contraint par la météo aussi également. Mais donc, c'est un vide-grenier couture qui est très sympa. Et donc, sur l'occasion, on développe aussi des corners de seconde main en magasin. Donc là, on fait de l'intermédiaire auprès des clients. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une partie collecte et après une partie revente. Donc là, on va reconditionner, redimensionner les coupons qui nous sont confiés. On fait un tri et on va le reproposer à la vente après en magasin. Donc ça, on est sur une phase de test. On a testé sur 3-4 magasins, on a fait évoluer la formule. Là, on va être sur notre dernière phase de test. Donc vous avez vu derrière le mobilier là, qui vient d'arriver hier soir, qui va être en test en magasin. Donc dès notre retour et puis dans 6 autres magasins dès la rentrée. Voilà, donc ça, c'est la façon dont on adresse l'occasion côté tissu. Et sachant que je précise, au fait, la différence aussi sur le marché de la seconde main avec le tissu, c'est qu'au fait, le tissu peut rester neuf Voilà, autant une pièce a déjà été portée, alors ou pas, elle a pu rester dans le placard, mais sans jamais être portée, ce qui est quand même pas la majorité des cas, heureusement. Mais en tout cas, sur le tissu, on peut avoir eu un coup de cœur, acheter un bout de tissu, et puis finalement, pas l'avoir travaillé, ou alors ça peut être une chute d'un projet qu'on a déjà fait. En tout cas, le tissu n'a pas nécessairement été travaillé. Donc en fait, ça reste, on parle quand même de marché d'occasion de seconde main, mais c'est un produit neuf finalement.
Et alors pareil, de façon très pratique, où est-ce qu'on trouve les infos, tu vois, sur le troc? Est-ce qu'il faut être abonné à votre newsletter? C'est sur le site web?
Bien sûr, c'est une obligation. J'espère que tout le monde est abonné à la newsletter et aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour ces événements-là. Voilà, donc c'est essentiellement par ces biais-là qu'on communique. Et après, de façon locale, avec la presse locale, en fonction des magasins pour annoncer l'événement.
Et il y a une offre récente de machines à coudre aussi en seconde main.
Exactement. Donc vous voyez derrière les machines à coudre d'occasion qui ont été révisées, réparées dans nos ateliers, sous la houlette de Véronique, qui est la grande chef de l'atelier réparation. Donc il y a deux personnes maintenant, on a deux techniciens qui travaillent à temps plein sur les réparations de machines à coudre. Donc c'est à la fois la révision des machines à coudre, c'est un service SAV, et en même temps, donc on a des machines que les clients ne veulent pas récupérer, ne veulent pas payer le prix de la réparation, voilà, donnent les machines. Donc, soit on peut les utiliser pour pièces, elles ne sont vraiment pas réparables, soit on peut les réparer et les revendre par la suite.
On voit qu'il y a quand même la proposition de valeur créative, que ce soit dans le choix des tissus, dans le fait de faire du visible mending, on en a parlé un petit peu ce matin, ou bien simplement d'arborer une pièce de seconde main, comme tu le disais, Virginie, avec une certaine fierté. C'est un statement aujourd'hui, enfin c'est une posture sociale. Rino, de votre côté, vous avez depuis le début chez Violette Sauvage cette volonté de faire de la curation de pièces qui sont quand même, enfin de pièces de seconde main qui sont de qualité et qui ont une vraie proposition esthétique. Vous avez aussi une politique anti-fast fashion, pareil depuis 2010. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que vous faites cette sélection? Comment est-ce que vous vous assurez que les personnes qui s'inscrivent en tant que vendeurs vont respecter ces conditions sur vos événements?
Déjà, pour bien comprendre, un V-dressing, c'est un espace que l'on fournit clé en main. Toute personne peut venir vendre juste avec son dressing. Il va trouver sur place un portant, une chaise, des miroirs, une cabine d'essayage, enfin tout ce qu'il faut pour vendre, sans avoir à se soucier des questions logistiques. Et pour ce qui est du tri et de la garantie de ce qu'on pourra trouver sur le lieu de vente, on ouvre un site sur lequel on peut s'inscrire. Et sur ce site, on demande quelles sont les 5 pièces les plus représentatives du dressing, quelles sont les 5 pièces les plus chères du dressing, quelles sont les 5 pièces les moins chères du dressing. Et par rapport à ce déclaratif-là, on va faire un pré-tri des différentes personnes qui postulent. Et ensuite, le jour J, on essaie de tourner le plus possible sur l'événement pour être certain qu'il n'y ait pas de pièces qui soient trouées, salies, boulochées, et que tout soit le plus vendable et le plus vendeur possible.
Et vous avez aussi différentes typologies d'événements? En termes de standing, en termes d'offres orientées, plutôt genre masculin, genre féminin, autre.
On a lancé donc au début les V-dressings géants, qui sont vraiment des V-dressings qui ciblent tout le monde. On a voulu faire très large et on a commencé à sectoriser un peu plus. On fait des V-dressings pour enfants, on fait des V-dressings pour hommes et des V-dressings un peu plus luxe. Alors après, toutes ces dynamiques, comme on fait essentiellement de l'événementiel, a vraiment a été retardé de par les différentes crises sociales qu'il y a pu avoir, comme ça commence avec les attentats, ensuite les manifestations sur le travail, et puis plus récemment le Covid. Donc toute cette émulation a été un peu freinée, mais là, le ciel est un peu plus, on va dire, au beau fixe pour ce qui est du futur. Donc on va reprendre, on va dire, ces différents événements, et on va recommencer à faire les événements un peu plus thématiques.
Et est-ce que, donc pareil, à la lumière de ton expérience, tu peux nous parler de l'évolution des profils de personnes qui viennent visiter ces événements et comment est-ce que progressivement, il y a eu une massification de la sensibilisation autour de la seconde main?
Le premier leitmotiv qui déplaçait les personnes, ça a toujours, au début en tout cas, été le bon plan. C'est-à-dire que nous, on communiquait sur le recyclage glamour, puisque c'est quelque chose qui a toujours été important pour nous depuis le départ. C'est ce positionnement sur consommer mieux et plus éco-responsable. Mais les personnes qui venaient essentiellement pour trouver des choses moins chères et trouver des choses à un prix qu'elles pourraient jamais trouver ailleurs. Et tout doucement, on a vu une mutation sur ce que tu disais justement, de trouver la pièce unique, de pouvoir s'habiller vraiment différemment, et le côté un peu plus social de « je vais acheter une pièce qui appartient à une personne, et cette personne va me raconter un petit peu l'histoire de la pièce, les temps forts qu'elle a pu vivre avec, les souvenirs qu'elle a. » Et du coup, on va acheter une pièce, mais aussi un moment. Et ça, c'est ce qui est très important sur les événements. C'est pas juste s'attacher au bon plan ou au prix. C'est on va vraiment se lier d'amitié, limite, avec la vendeuse. Et on va créer comme ça des micro-communautés où les personnes, même au-delà des événements, continuent à s'écrire, à échanger et à vendre sur Vinted ou sur les différents réseaux. Mais comme tu dis, c'est très bien, puisque plus on a des canaux de vente et plus la seconde main va prendre et peut-être moins on va acheter, moins on mettra la fast fashion en avant. Mais au niveau des événements, c'est le côté social et le lien vraiment humain qui est très important.
Et est-ce que tu as remarqué, vu que vous étiez présent, en tout cas avant Covid, dans différentes villes de France et même en Suisse et en Belgique, je crois, différentes typologies de vendeurs ou de personnes qui achètent en fonction de la géographie ?
Alors, ce qui est très intéressant, et c'est vraiment juste empirique, on n'a aucune étude là-dessus, c'est juste du constat, c'est que le dressing, finalement, est assez régional, dans le sens où, en fonction des métropoles de France où l'on va, on va trouver une certaine typologie de couleurs, de pièces et de façons de s'habiller, avec une constante qui est le dressing de la parisienne à ce quelque chose d'universel qui fait qu'une vendeuse parisienne pourra aller n'importe où dans n'importe quelle ville de France, elle a la garantie de pouvoir vendre parce que les pièces qu'elle a font écho et plaisent. L'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'une personne, par exemple, de Lyon ait un dressing très quali et très pointu pour qu'il puisse venir vendre de manière, on va dire... rentable sur Paris, alors que la Parisienne, elle, pourra vendre son dressing très facilement dans n'importe quelle autre ville de France, et même en Italie, parce qu'on a fait des événements à Rome, et là-bas, pareil, une espèce d'universalité au niveau du dressing de Paris.
C'est marrant parce que peu importe les réseaux sociaux, l'avènement du digital, on en revient à la mode parisienne et les coupons de tissus qu'on allait acheter à la capitale il y a 80 ou 100 ans pour les amener à son couturier de quartier. Donc il y a une valeur émotionnelle ajoutée, tu l'as dit très bien, de la seconde main. Il y a une valeur de conseil aussi. Toi Céline, tu as une activité d'influence avec une communauté assez conséquente qui te suit sur Instagram. Est-ce que tu dirais que les gens déjà sont... averti. Est-ce que c'est une curiosité le fait de te suivre ou c'est plutôt des personnes comme toi qui sont déjà convaincues de l'intérêt du vintage ?
Je pense que déjà ça a pas mal évolué par rapport au moment où j'ai commencé. Je pense qu'au début, alors après, je pense que j'ai relativement une communauté qui me ressemble, c'est une évidence. Mais j'ai vraiment de tout et j'ai pas mal de très jeunes, donc vraiment des gens qui ont moins de 18 ans. Et qui viennent avec, au début, une curiosité de peut-être un style qui diverge un peu de ce qu'ils voient d'habitude. Et ensuite, il y a le côté créatif de la couture qui est toujours assez agréable à regarder, qu'on soit couturier ou pas, d'ailleurs. Et en fait, petit à petit, je pense que ça s'immisce un peu au fur et à mesure dans les idées. Mais je pense que j'ai vraiment un panel de gens assez différents. Vraiment des gens qui sont très vintage, qui font ça depuis des années et qui ont toujours consommé comme ça. Il y a des gens qui vont être en transition, qui ont à peu près mon âge. Donc moi, j'ai 27 ans. Donc des gens qui vont être vraiment dans leur vraiment ce processus de devenir des vrais adultes, on va dire. Donc en arrivant à la trentaine, on commence à avoir un pouvoir d'achat. On peut peut-être investir dans des choses différemment de quand on est jeune où on achète beaucoup en quantité. On a envie d'être un peu comme les autres. Et il y a aussi une tranche d'âge qui a 18-20 ans et qui commence à s'y intéresser et qui a besoin d'inspiration parce que aussi c'est pas facile parce que notre monde est quand même très dirigé vers la consommation, la surconsommation. La norme des modes est quand même dictée par la fast fashion, malheureusement. Et du coup, il faut un peu prendre son envol par rapport à toutes ces tendances-là. Et je pense que les influenceurs et influenceuses de notre milieu, c'est important qu'on soit là aussi pour guider les gens dans cette transition. Donc moi j'ai l'impression que j'ai un petit peu de tout, franchement.
Et alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont récurrentes, justement, de la part de gens de ta communauté sur comment chiner, tu vois, est-ce que tu peux nous donner des conseils et quelles seraient ces questions ?
Souvent, ouais. Je sais que c'est une question qui revient et je pense que toutes les influenceuses dans mon milieu pourront le dire. C'est qu'est-ce que tu as tapé dans la barre Vinted pour trouver ce vêtement-là ? Parce que, notamment, les gens consomment beaucoup avec Vinted parce que les friperies, les boutiques vintage ne sont pas forcément accessibles à tout le monde parce qu'on n'est pas tous en grande ville. Et je pense qu'il y a on se sent perdu, en fait, sur les sites de seconde main parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que aussi, aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de gens qui vendent. Il y a aussi de l'espèce de dropshipping un peu sur, enfin du greenwashing un peu sur sur Vinted. Il y a des choses qui sont vendues comme du vintage et en fait qui viennent de fast fashion. Donc c'est, je pense que les gens sont un peu perdus. Donc il y a un peu de ça. Il y a un peu de, voilà, des personnes qui me disent qu'est-ce que tu tapes sur Vinted, comment tu fais pour réussir à trouver telle ou telle pièce, tel ou tel style. Donc ça, moi, j'essaye de guider les gens, même si j'avoue que la plupart du temps, ma réponse, c'est il faut y passer du temps, parce que moi, c'est ce que je fais. Et puis, après, il y a les demandes donc, d'adresses de friperie, notamment. Donc ça, j'essaye d'aider comme je peux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi qui guident, qui font des guides avec des adresses. Il y a même des applications qui existent aussi aujourd'hui pour répertorier tout ça. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est être guidé dans cette transition qui est difficile dans un monde d'uniformité où tout le monde en fait finalement achète ses vêtements en fast fashion, enfin pour la plupart des gens évidemment quoi.
Et en même temps c'est hyper positif de voir que c'est une activité, enfin une économie en pleine expansion, qu'il y a de plus en plus de points de vente et qu'on désacralise un peu, ou plutôt qu'on démystifie le côté la fripe qui sent la naphtaline dans un magasin où il y a des mythes et où on va trouver de façon hasardeuse un truc qui peut nous ressembler. D'où l'importance aussi d'avoir justement des lieux physiques en dehors de la recherche web, c'est hyper complémentaire. Et du coup si on devait se figurer une barre de recherche dans un lieu, un espace physique, quels seraient tes conseils, Virginie, pour permettre à quelqu'un qui n'a jamais chiné ou qui n'a jamais mis les pieds dans un espace de réinsertion qui pratique le réemploi pour s'aventurer et trouver la pièce de ses rêves?
Alors nous, on a enlevé les mythes. En fait, les boutiques de tremplin sont comme n'importe quelle boutique, donc tout est classé par taille, par couleur. C'est pas le grand bazar, en fait. Donc, en fait, si vous cherchez une veste, il faut aller au rayon veste, désolée. Mais voilà. Et donc, après, sinon, il y a toute une partie, par exemple, la boutique qui va ouvrir à Lyon ou une partie de la boutique Fripon, c'est vrai que c'est du déstockage. Donc là, c'est dans des grands conteneurs. Vous avez tous les t-shirts. Voilà, faut fouiller, faut prendre son temps, comme tu disais. Et puis, voilà, puis c'est le plaisir aussi de fouiller. C'est, y a aussi ce petit aspect, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on trouve toujours quelque chose de toute façon. Donc voilà, donc nous, c'est trié.
Donc il faut se laisser happer par la matière, par la couleur, par la texture. Ça, je sais faire. Je me tourne vers toi, Marine, parce que Mondial Tissu donc, a un partenariat avec Tremplin. Alors, j'aimerais que tu m'expliques la genèse de ce partenariat et la valeur ajoutée de l'offre des stocks de Mondial Tissu dans ce type d'association.
Alors, la genèse, elle date d'il y a à peu près 7-8 ans. Quand notre DRH est venu me voir en me disant « Marine, tu ne connaîtrais pas une association à laquelle on pourrait donner des tissus ?» On a des, on n'avait pas énormément de stocks dormants, mais quelques stocks de proto ou quelques fins de collection à donner. Et donc, les critères étaient une association locale qui emploie des femmes en majorité. En fait, moi, j'avais été bénévole chez Tremplin pendant quelques mois. Et du coup, j'ai pensé immédiatement à Tremplin. Et ça matchait immédiatement entre Mondial Tissu et Tremplin. Donc, d'abord sous forme de dons de tissus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les activités de Tremplin parce que c'est quand même assez impressionnant. Mais dans les activités de réinsertion donc de Tremplin et de formation, donc il y a du tri, donc il y a toute la partie collecte textile, le tri, et après la partie vente. Et il y a un atelier de couture. Donc dans cet atelier de couture, en fait, les personnes qui sont en formation pour 2 ans maximum, si je me trompe pas, vont pouvoir soit réparer, customiser, upcycler les pièces qui leur sont confiées pour pouvoir les revendre dans les différents magasins dont Virginie a parlé. Et du coup, en fait, les tissus qu'on a pu donner ont pu servir pour upcycler ces pièces-là. Donc nous, on a travaillé avec l'atelier de couture pour faire tous les protos, tous les vêtements que vous voyez dans les shooting mode de Mondial Tissu sont réalisés par Tremplin. Donc il y a un travail de fond qui est réalisé par Brice et les équipes Tremplin pour pouvoir réaliser tous ces protos. Donc ça, c'est vraiment une partie hyper importante. Et après, le partenariat a pris encore différentes formes, sous forme aussi de vision croisée sur le management. On a fait des rencontres comme ça entre les managers de Tremplin, les managers de Mondial Tissu, pour partager la vision du management. Et au fait, c'est très riche. sur voilà, les différentes visions qu'il peut y avoir. Et voilà, ça donne des échanges voilà, très, très enrichissants. Et chacun repart un petit peu chamboulé de son côté. Voilà, donc des très belles journées. Après, il y a eu plein d'autres projets aussi. On accueille, alors dans les activités tremplin, il y a du maraîchage. Donc on a un marché bio organisé par tremplin dans nos bureaux une fois par mois. Voilà, et je crois qu'il y a encore plein d'autres choses, mais voilà, on ne va pas tout détailler. Bon, en tout cas, voilà, on a trouvé plein de synergies ensemble. Et donc voilà, donc ça s'enrichit au fur et à mesure dans le temps.
C'est top parce que c'est pas souvent qu'on entend ces éco-bénéfices. C'est très facile de faire le lien entre écologie et seconde main, réemploi. L'insertion peut être associée, mais le côté valorisation du travail des femmes, formation continue, expérience managériale aussi, enfin un peu d'un nouveau genre. L'étape d'après, c'est de communiquer tout ça sur les réseaux et de faire de ce story proving des éléments de communication positifs pour vos différentes structures. Virginie, est-ce que toi, tu veux nous parler un petit peu du partenariat que vient d'évoquer Marine, et est-ce que tu as des exemples à nous donner de ce que ça a pu changer dans la vie des personnes qui sont en insertion chez Tremplin ?
Alors donc, on a parlé du réemploi, mais effectivement, le partenariat avec Mondial Tissu est capital au niveau de l'atelier textile. Donc effectivement, Tremplin a beaucoup d'activités. C'est 350 salariés quand même au niveau du site. Les jardins, on a une entreprise de travaux, une ressourcerie. Et donc, l'atelier couture, c'est 110 personnes. Et grâce à tout le tissu en fait qui est donné par Mondial Tissu, il y a donc certes l'activité donc de travail de patronage pour les shootings photos, mais il y a aussi tout un travail d'upcycling qui est fait par donc Elidiona à Bourg-en-Bresse notamment, et puis il y a un atelier couture aussi qui a été qui fait partie de Tremplin à Villeurbanne, et donc en fait il y a tout un travail de customisation des textiles qui sont revendus aussi en boutique, et de création pure en fait de textiles, de sacs, d'objets, d'accessoires, et donc ça permet à des femmes qui ont été en rupture de ban, rupture sociale, qui ont eu des accidents de la vie, des gens qui arrivent d'autres pays qui ne parlent pas bien français, donc le temps qu'elles apprennent la langue, qu'elles retrouvent un statut social un peu plus stable, donc elles peuvent apprendre un métier. Certaines sont déjà couturières, on a eu des tailleurs aussi qui étaient là, donc en fait ça crée aussi une émulation en fonction des histoires de chacun, et puis apprendre un métier pour pouvoir après être autonome et puis retrouver du travail. Et il y a une anecdote, si j'ai le temps. En fait, donc on a fait, donc il y a l'upcycling de vêtements, mais avec les tissus d'ameublement qui sont vendus chez Mondial Tissu, et donc on a la chance, en fait, on a une pièce qui est consacrée au textile, et donc on a fait un atelier pour refaire des lampes et des cadres. Et donc, on refait des abat-jours, on recrée des lampes toutes neuves, en fait, sur du mobilier ancien, avec les choses qui sont récupérées à la ressourcerie. Et on avait une jeune femme qui sortait de la rue, en fait. C'était son premier stage, on va dire. Et donc, elle n'était même pas capable de s'asseoir sur une chaise. Elle n'avait pas assez de dignité en elle pour pouvoir s'asseoir avec les autres, pour pouvoir travailler sur sa lampe. Elle pensait qu'elle était incapable de rien. Donc, elle a commencé à travailler sous la table. Donc, c'était comme ça, et avec une grande dévalorisation. Et puis, les jours venant, voyons qu'avec justement la beauté du tissu, en fait, il y a eu une synchronicité entre la beauté du tissu et la revalorisation qu'elle a pu avoir d'elle-même. Donc, on a fini par, à la fin de la semaine, donc elle a fini sa lampe avec de la dentelle rose. C'était pas facile en plus ce qu'elle faisait. Et donc, le dernier jour, on allait à la ressourcerie, on a fait un showroom où on a fait quatre thématiques, on va dire bourgeois, plus teenager, enfin voilà, il y avait couleur du monde, et puis en fonction des tissus qu'on avait. Et donc, c'était tous les objets upcyclés étaient vendus. Donc, il y avait le traiteur de tremplin aussi qui était là pour faire un apéro. Et donc, à un moment donné, une dame achète sa lampe. Donc, je vais la chercher, elle s'appelle Angèle. Je lui dis, tiens, regarde, ta lampe, elle est vendue. Et là, elle s'effondre en larmes. En fait, c'était sa tutrice, c'était son agent d'insertion qui l'a suivée. Moi, je ne savais pas. Et donc, toutes les deux se sont rencontrées. Elle a acheté sa lampe sans le savoir. Et donc, ça a été voilà, une revalorisation. Vraiment, c'était très émouvant quoi, de voir ça.
pouvez être très fiers de vous quand même, hein, toutes les deux. Je suis très contente d'avoir cette histoire dans mon podcast. Céline, justement, la prochaine question est pour toi. Comment est-ce que on peut raconter ces histoires, justement, et utiliser la force du digital comme tu le fais en influence pour donner envie aux gens, montrer vraiment que c'est facile de se mettre à la couture, c'est hyper épanouissant et que ça permet d'avoir un style bien à soi?
Bah, en fait, je pense que c'est vraiment un questionnement que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est que je pense qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais convaincre, vraiment convaincre les gens avec des arguments, etc. Et en fait, je pense que la meilleure solution, c'est juste de leur montrer que c'est possible, de juste de leur donner envie, en fait. Un peu d'être une vitrine, un peu comme dans un magasin, leur montrer, bah voilà, là j'ai fait ça avec ci, là j'ai récupéré une couverture, j'en ai fait une veste, là j'ai récupéré un apron, j'en ai fait une robe, là, enfin voilà, vraiment leur donner des idées et que les gens viennent d'eux-mêmes piocher par rapport à leur caractère, ce qu'ils aiment dans la vie, et pas vraiment essayer de convaincre avec des arguments que ce soit trop lourd dans la culpabilité, etc. C'est pas vraiment quelque chose qui marche. Et en fait, je me rends compte que la couture, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens parce que les vêtements, c'est vraiment assez... Finalement, c'est quelque chose d'assez futile, entre guillemets, mais c'est quand même assez central dans nos vies. On s'habille tous, on a tous un code vestimentaire pour le travail, la vie de tous les jours, à la maison, etc. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui intéresse énormément de monde. Et encore une fois, pas forcément des gens qui sont créatifs, pas forcément des gens qui vont coudre. Donc pareil, moi, j'essaie aussi de trouver des formats qui soient agréables à regarder, même pour des gens qui ne cousent pas. Je fais pas forcément du tuto, par exemple, parce que c'est peut-être un peu trop... Je sais pas, trop niche pour moi. Et puis, en plus, ça a tendance à un peu me détacher de mon moment hyper méditatif que j'adore, de coudre, d'être vraiment dans mon truc. Donc, du coup, juste de montrer, de un peu montrer une palette de ce qu'il est possible de faire. Et je me rends compte qu'en fait, les gens, ça capte leur attention et que j'ai de plus en plus de gens de tout jeunes qui me demandent quelle machine acheter pour commencer, où trouver mon tissu, qu'est-ce que je dois acheter en mercerie, etc. Ça, c'est moi vraiment une grosse victoire quand c'est vraiment des très, très jeunes. Il n'y a pas longtemps, là, il y a une maman qui m'a dit « Ma fille, elle vous suit sur les réseaux, je veux lui acheter une machine, qu'est-ce que je pourrais prendre, etc. » Donc, j'essaye de guider au maximum de ce que je peux faire, mais c'est super encourageant, ça me fait super plaisir, quoi.
J'ai vu, il faudrait que je retrouve le nom de ce compte Instagram d'un petit enfant américain qui doit avoir peut-être 7 ou 8 ans et qui s'est fait son costume de dinosaure lui-même. Et on le voit aller dans le magasin de tissus. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Meilleure inspiration ever. Ouais. Non, je trouvais intéressant le fait que aussi, on n'entend pas souvent à quel point la couture peut être facilitant vers la seconde main, c'est-à-dire que ne pas avoir l'appréhension quand tu vas en friperie d'acheter une pièce qui est tachée, qui est abîmée, dont il manque un bouton, dont tu voudrais changer la doublure, sans pour autant sortir avec vraiment un costume upcyclé signé, mais changer une taille, etc. Enfin, ça peut être un frein en moins finalement dans le fait d'aller vers la seconde main. Donc ça, c'est plutôt pour l'expérience en physique, mais cela dit, ça marche aussi en ligne. Rino, toi, tu as fait le chemin inverse, donc tu as commencé par les événements physiques, et là, vous allez sortir, si je ne m'avance pas trop, une plateforme digitale. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez développé cette offre en complémentarité ?
Le projet du V-Dressing a toujours eu en ligne de mire le digital, dans le sens où si on veut pouvoir faire en sorte que la seconde main prospère, juste en faisant 10 ou 15 événements par an, on ne pourra jamais avoir un rayonnement suffisamment important pour générer un gros volume, pour que justement il y ait une vie de seconde main. Et le seul volume important que l'on peut générer avec de la seconde main, c'est forcément en ligne. Donc ça fait environ 6-7 ans maintenant qu'on a envie de faire une marketplace. On est un peu des ours, où on est dans notre caverne et on parle un peu à personne. Du coup, on s'est mis en tête de faire notre marketplace tout seul. Et donc ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait apprendre à coder, il fallait apprendre à faire plein de choses. Donc là, enfin, elle va sortir. Et ce qui a accéléré vraiment la chose, c'est la période du Covid qui nous a montré les limites du physique, dans le sens où malheureusement, lorsqu'on ne peut pas se retrouver en physique, ce qui reste, c'est le digital. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a vraiment mis les bouchées doubles pour pouvoir finir la plateforme, qui devrait normalement être opérationnelle pour le mois de septembre.
Alors, j'allais vous proposer de conclure les tableaux en demandant si vous aviez une actu à partager ou un message à faire passer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On avait échangé sur la disponibilité des lieux physiques.
Exactement. Pour continuer les événements physiques, on a vraiment besoin de trouver des lieux qui soient prêts à nous accueillir. L'idée d'un V-Dressing, c'est que tout un chacun puisse venir vendre. On n'est pas du B2B, on est plutôt sur du B2C. Et pour que chaque client puisse venir vendre, il ne faut pas qu'ils aient des prix de stand trop importants. Et les prix de stand sont forcément corrélés au prix des salles. Or, les prix des salles sont devenus vraiment très très chers, et pour qu'on puisse tenir la promesse de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse venir vendre, il faut qu'on ait des salles qui nous ouvrent leurs portes sans nous faire du locatif de l'espace. Donc, si on peut faire passer un appel, c'est ça, c'est si vous avez des salles qui font entre 500 et 2000 mètres carrés et que vous êtes prêts à nous ouvrir les portes, nous on vient avec grand plaisir, on a tout le professionnalisme qu'il faut pour apporter un merch qui soit carré et on pourra faire un événement vraiment très sympa, bien achalandé, où on fera vivre une expérience aux visiteurs dans n'importe quel type de lieu. Donc du coup, on frappe aux portes.
J'ai en tête un super événement de mode circulaire où tu as du vintage, l'atelier de customisation juste à côté, la retoucherie encore un peu plus loin. Enfin, il y a un truc à faire entre vous là. Je lance l'idée. De ton côté, Virginie, il n'y a pas une petite annonce à faire, une grande annonce à faire.
Alors nous, on a une grosse actualité. En fait, Tremplin, à la fin de l'année dernière, a signé une charte avec l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Et donc, on est le premier territoire en France à s'engager à ne plus exporter le textile qui n'est pas vendu, donc tout le déchet textile, et à ne plus enfouir de déchets non plus dans les bacs d'enfouissement. Donc là, c'est le gros travail. Donc l'idée, c'est vraiment de tout miser sur le réemploi. Donc la moyenne nationale de réemploi en France est autour de 4% en local. Hein. Je parle vraiment de Revente France. Nous, on est autour de 20-25%. L'objectif, c'est 30%. Et tout le reste, en fait, on doit maintenant caractériser tout le gisement textile qui reste pour pouvoir trouver des débouchés les plus vertueux possibles. Et donc voilà, c'est le chantier actuel. Donc le partenariat avec Mondial Tissu va se poursuivre.
Et donc forcément dans la créativité, puisqu'il va falloir faire quelque chose de tout ce tissu. Mais blague à part, c'est énorme comme déclaration et j'espère que ça va en inspirer beaucoup d'autres parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'on voyait du ciel la taille de nos décharges textiles en Colombie et au Chili. Donc c'est pas un petit pas. Marine, est-ce que tu as une actualité ou un message à nous faire passer ?
Alors nous, c'est clairement le développement de la seconde main avec les puces couturières là qui ont lieu en ce moment dans plusieurs magasins. Alors, j'ai plus exactement les dates en tête sur les différents magasins, mais voilà, allez voir sur les réseaux sociaux, vous retrouverez les dates. Donc, on a nos puces couturières et puis le corner seconde main là qui va te lancer en magasin, donc en test dans 7 magasins à partir de septembre. Donc voilà, on compte sur toutes les couturières pour voilà, créer du sourcing et rapporter leur tissu. Voilà, et puis les machines à coudre d'occasion, n'hésitez pas à les faire voilà, un tour sur le site pour donc c'est uniquement en ligne pour le moment et puis dans quelques magasins test. Voilà, les machines à coudre d'occasion, c'est aussi une belle avancée sur ce marché-là.
Voilà. Super. Et Céline ?
Alors moi, j'ai pas d'actu particulière, mais je sais pas, juste un message, juste de se mettre à la couture, ça me paraît être un bon début.
Une bonne clôture de cette table ronde. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.